Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une pièce créée en 1893. Il s'agit d'une pièce de Victorien Sardou et Émile Moreau, Madame sans gêne. Quelques mots quand même sur Victorien Sardou. Victorien Sardou a eu des débuts difficiles, mais il a fini par entrer à l'Académie française et il est surtout connu aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a écrit la pièce Tosca, dont Puccini a fait un opéra qui est encore à l'affiche de nombreuses scènes lyriques. Émile Moreau est moins connu, mais ils ont collaboré ensemble. Et notamment pour cette Madame sans gêne qui a été créée en 1893, comme je le disais tout à l'heure, et qui part d'un personnage réel, à savoir Catherine Hubscher, qui était l'épouse du maréchal Lefebvre. Et on suppose aussi que les deux auteurs se sont inspirés d'un autre personnage réel également, Marie-Thérèse Figuer. À propos de Catherine Hubscher, celle qui a servi de modèle principal, les personnes qui s'intéressent pourront retrouver sa tombe au cimetière du Père Lachaise. Cela dit, le personnage a très tôt tenté les plus grandes comédiennes. Et étonnamment, une des premières à avoir interprété le rôle au cinéma, c'est Gloria Swanson, une star entre les stars du cinéma muet. La pièce a été créée par Réjeanne, elle est entrée à la Comédie française en 1938, où elle a été jouée notamment par Béatrice Bretty et Lise Delamare. Elle a été jouée par Madeleine Renaud, par Arletty dans un film de 1941, par Jacqueline Maillan, qui l'a jouée pendant plusieurs années et qui a fait un triomphe. Parmi les plus récentes, Madame sans gêne, on peut citer Clémentine Célarier, Mathilde Seigner, dans un téléfilm. En tout, on a recensé 7 films, 3 téléfilms à partir de la pièce. Ce qui est quand même exceptionnel. Peut-être aurait vu l'occasion d'ailleurs de voir une version qui ne manque pas de celle. Où Madame sans gêne est jouée par Sophia Loren. C'est un film de 1961 de Christian Jacques. Elle joue aux côtés de Robert Hossein. Un tel succès, et aussi durable, mérite peut-être qu'on s'y attarde. Parce qu'en réalité, c'est une pièce écrite pour une actrice. C'est vrai que quand on voit la représentation, quand on voit les films qui en ont été tirés, les personnages autour disparaissent complètement derrière le personnage de Madame sans gêne. Oh ! Bien sûr, il y a eu... Dans la pièce, on voit apparaître Napoléon, on voit apparaître Fouché, mais c'est quand même Madame sans gêne qui tient le rôle principal. Et comment pourrait-on qualifier ce personnage de Madame sans gêne ? Je crois que le succès du personnage tient au fait que c'est une femme du peuple qui restait du peuple, qui n'a jamais renié ses origines, même lorsqu'elle a été duchesse de Danzig, lorsque son époux le maréchal Lefebvre est devenu duc de Danzig, elle est restée elle-même. Mais attention, et c'est là peut-être une des difficultés principales du rôle, elle est populaire sans jamais être vulgaire, sans jamais tomber dans la vulgarité. Elle a cette classe naturelle des gens du peuple qui savent rester eux-mêmes. Et puis bien sûr, il y a comme nœud de l'intrigue, il y a l'amour qui lie les deux époux, Madame Sangène et Lefebvre, le maréchal Lefebvre. Et ça aussi, ça ne pouvait que assurer la durée de la pièce. On va évoquer, moi, rapidement, quelques personnages historiques qui sont aux côtés de Mme Sangène. Bon, il y a Napoléon, il y a Fouché, le ministre de la police, il y a deux des sœurs de Napoléon, Caroline et Elisa, qui sont, on va dire, un peu maltraitées par les auteurs. Au point que, anecdote, le jour de la création de la pièce, la princesse Mathilde, qui était dans la salle, la princesse Mathilde, qui était cousine de Napoléon III et nièce de Napoléon Ier, a quitté la salle avec fracas en disant qu'elle ne supportait pas la façon dont on présentait sa famille. Il est vrai que ces deux tantes, ben, disons, Caroline et Elisa, ne sont pas particulièrement gâtées. Voyons maintenant, si vous le voulez bien, quelques extraits de cette pièce. Et surtout, commençons par le prologue, ce qui est naturel, puisque la pièce a un prologue. Le prologue se passe à Paris le 10 août 1792, dans une boutique de blanchisseuses. Le 10 août, c'est au moment où les révolutionnaires prennent plus ou moins le pouvoir. Et dans cette blanchisserie, tenue donc par Madame Sangène, par Catherine, disons, arrive à l'improviste un ennemi blessé. L'ennemi blessé en question, c'est Necker, qui est autrichien, qui va jouer un rôle important par la suite. Et alors là, je trouve aussi que c'est un des aspects les plus sympathiques de la pièce. Parce que Catherine, qui se sent révolutionnaire dans l'âme, qui n'est pas royaliste, au lieu de voir un ennemi dans le comte Necker blessé, elle voit simplement une victime qu'il faut protéger et sauver de l'assassinat. Alors, elle commence par fermer la porte pour empêcher les gens d'entrer dans sa blanchisserie. Certains veulent entrer, alors elle cache Necker dans sa chambre. Arrive son fiancé, Lefebvre, et Lefebvre, comme tout fiancé amoureux qui se respecte, est terriblement jaloux. Il réalise brusquement que la porte de la chambre de sa fiancée est fermée à clé. Il est furieux. Il s'imagine qu'elle le trompe, enfin. Et alors, Catherine va jouer le tout pour le tout. Elle lui tend la clé de sa chambre en lui disant, mais puisque c'est ça, va voir toi-même. Lefebvre entre dans la chambre. Il en ressort quelques secondes plus tard, pâle. Il a très bien compris ce qui s'était passé. Et lui, le révolutionnaire, qu'on nous a présenté souvent comme assoiffé de sang, accepte approuve ce qu'a fait sa fiancée et déclare aux autres qui sont dans la blanchisserie, il n'y a rien dans la chambre. Et cette espèce de compassion humaine de Catherine et de Lefebvre envers un ennemi qui est quand même un soldat a quelque chose de profondément humain qui, moi, personnellement, continue à me toucher. Nous allons prendre, si vous voulez bien, une première pause musicale. Cette première pause musicale est toujours dans le prologue. Je voudrais vous présenter un personnage incontournable de l'histoire de France, à savoir Fouché, un manœuvrier comme il n'y en a pas deux, et qui, dans toutes les situations de la Révolution à l'Empire, va se tirer d'affaire. Et Fouché est client de Catherine, qui à l'époque est blanchisseuse. Fouché, pendant que les révolutionnaires sont partis à l'assaut des Tuileries, Fouché est resté dans la blanchisserie. Catherine, quoi que vous fichez là, j'attends. Et quoi? Qu'on ait pris les Tuileries, vous ne feriez pas mieux de les prendre avec les autres? À quoi bon? Puisqu'ils s'en chargent. Voilà un homme qui est tout le temps au palais royal, à brailler avec les autres, vive la liberté, à bas le tyran, en avant les patriotes, et quand les patriotes vont se faire crever la peau, il reste là, derrière sur sa chaise. Vous n'avez donc pas de sang dans les veines? N'en est pas plus qu'il ne faut, et je ne vois pas la nécessité d'en risquer une seule goutte. À chacun son rôle, ma belle amie. Il y a ceux qui font les révolutions, et ceux qui en profitent. Les combattants et les organisateurs, moi, je suis plutôt organisateur. C'est-il vrai que vous avez été quasiment prêtre, hein ? Oratorien, à Nantes. Mais dès 89, j'ai changé de métier. Et à cette heure, quoi que vous êtes, révolutionnaire. Ça vous donne quoi vivre? Pas encore, mais ça va venir. Oui, c'est pour vous, pas vrai, qu'on fiche le gouvernement à bas. C'est un peu pour moi, oui. Et quoi qu'on va mettre à la place? Ah, ce qu'on voudra. Quoi que ce soit, je suis bien décidé à en être. Ah, on vous fera peut-être ministre pour voir. Oh mon Dieu, pourquoi pas? Plutôt lieutenant de police, pas vrai? Plutôt. Oui, je vous vois assez, votre museau de fouine, parfouillé dans le linceul de tout le monde. Alors, va pour la police. Mais c'est con, s'y croit tout de bon, farceur, va. Vous serez ministre quand je serai duchesse. Je ne vois pas bien dans ce rôle-là, ni moi. Qui d'ailleurs va être supprimé, tandis que des ministres, il y en aura toujours besoin. Et quand vous le saurez, vous me paierez ma note? Oh, fille donc, ma chère, déjà solliciteuse? C'est que voilà ben 3 mois que vous vous lanchez pour rien. Et ce personnage de Fouché, qui est d'une actualité, je trouve, plutôt brûlante, avec ces personnages qui arrivent toujours, quel que soit le régime, le ministre ou le président, à obtenir une place de choix, est resté presque notre contemporain. Mais venons-en aux actes suivants. Les actes suivants se passent là, aux Tuileries. Napoléon Ier, enfin, qui est devenu Napoléon Ier, a répudié Joséphine, s'est remarié avec Marie-Louise, et tout va se jouer sur une ambiguïté. Parce que le comte Nepère, qu'on a vu dans le prologue, en réalité, est passionnément amoureux de celle qui fut l'archiduchesse Marie-Louise et qui est devenue l'impératrice Marie-Louise. Napoléon n'apprécie guère ce genre d'hommage à son épouse et redoute par-dessus tout de devenir cocu. Entre-temps, Lefebvre est devenu duc de Danzig, Catherine est devenue Madame Lefebvre, duchesse de Danzig, mais on ne s'improvise pas forcément duchesse. Et la pauvre Catherine a bien du mal à assurer son rôle de duchesse. Tout simplement parce que à la cour de Napoléon règnent au moins deux de ses sœurs, Caroline et Élisa. On veut faire oublier qu'on est de naissance roturière, donc on singe un peu les habitudes de la cour de Louis XVI. Et un jour, Élisa et Catherine, les deux sœurs de l'empereur, viennent rendre visite à la duchesse, tout simplement pour se moquer d'elle. Les choses ne se passent pas tout à fait comme le pensaient les deux sœurs. Caroline, à ces dames, aux dames qui l'entourent, « Ne trouvez-vous pas, mesdames, que la maréchale a des façons de s'exprimer très originales ?»« Oh oui, oh oui !»« Ainsi, Lichette est d'une saveur très piquante. » »« Élisa, cela fait image. » Ces messieurs de l'Académie devraient bien noter au vol ces locutions naïves empruntées au vocabulaire du bas peuple. Catherine, et qui ne sont guère en usage que chez les harangères ou ces demoiselles du palais royal. Catherine, mais ça sent la poudre. N'est-ce d'ailleurs pas dans ce quartier-là, duchesse, que le 10 août vous avez sauvé monsieur de Neuperg en le cachant la nuit dans votre lit? Votre Majesté veut dire que je l'ai recueilli blessé en plein jour et dans ma chambre. Ah, l'hospitalité du lit. Je laisse ça à de plus grandes dames que moi qui n'y reçoivent que les gens bien portants. Monsieur de Neuper était donc bien avisé ce jour-là de se réfugier dans ma boutique. Oui, Majesté. Élisa, car en ce temps-là, n'est-ce pas, vous étiez blanchisseuse. Oui, princesse. Et je m'en cache pas, vous voyez. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut genre. Si je parle jargon du peuple, c'est que j'en suis du peuple. Et en belle compagnie. Je veux le dire, avec Masséna, qui était marchand d'huile, Bessière, qui était perruquier, nez, tonnelier, l'âne, ternecurier, brune, typographe. Et le brave Murat, présentement votre époux,
qu'était valet chez son père, aubergiste. Si bien que ceux qu'il appelle aujourd'hui « Majesté », quelques-uns ont pu lui crier autrefois « Hé, garçon, change donc mon assiette !» Caroline, vous avez l'audace. Hé, il n'y a pas de honte à ça, au contraire. C'est bien leur mérite qu'ils soient partis de si bas pour monter si haut, par la seule force de leur vaillantise des services rendus à la patrie. Ils ont bien de quoi se glorifier d'être les fils de la Révolution, qui de rien qu'ils étaient, les a fait ce qu'ils sont. Et dans ce palais où nous voilà, grâce à elle, ceux qui y doivent tout et qui ont le mauvais cœur d'en rougir, sont bien ingrats d'oublier leur passé et bien lâches de renier leur mère. Sans oublier son passé, il faudrait du moins en oublier les allures, ne pas être duchesse avec un langage de poissarde et maréchal de France avec des façons de vivantière. Que j'ai été aussi sauf votre respect et du bivouac où l'on couche au milieu des troupiers. Ah, mais c'est bien à vos majestés à me reprocher cette vie-là. Je dis bien haut que j'ai dormi sur la dure avec ces troupiers-là, plus respectueux que votre majesté pour la femme que je suis et le nom que je porte, que j'ai roulé durant au Danube sous la pluie, la neige, les balles, ramassant les blessés, consolant les mourants, en fermant les yeux aux morts, et rien qu'en versant la goutte à nos soldats qui vous gagnaient en royaume. Moi, simple vivandière, j'ai pu faire pour votre couronne que vous-même, qui n'avez eu que la peine de la ramasser dans leur sang. Caroline, un mot de trop, et que vous regretterez, duchesse. Pas plus que les autres. Nous verrons bien. Sortons, mesdames. On se croirait au carreau léal. Après cette rencontre tumultueuse avec les deux sœurs, avec deux des trois sœurs de l'empereur, nous allons prendre une pause musicale. Une autre des scènes clés de Madame Sangène, de Victorien Sardou et Émile Moreau, c'est la rencontre entre Catherine Lefèvre et l'empereur. Parce que l'empereur a décidé de faire divorcer Lefèvre pour le remarier avec une duchesse quelconque, et Catherine lui rit au nez. Et Catherine va être reçue par l'empereur, il va découvrir quelle femme elle est, et finalement, il la laissera avec son Lefèvre, mais loin de la cour des Tuileries. Entre-temps, il y a une intrigue. Néperg a essayé de joindre l'impératrice Marie-Louise, qu'on ne verra jamais dans la pièce, mais dont la porte de la chambre est sur le côté cour ou jardin de la Seine. Et finalement, tout finira par s'arranger. Catherine Lefèvre et son époux, maréchal et duc, rentreront bras dessus, bras dessous chez eux pour y partager une nouvelle fois les joies d'un amour qui les lie maintenant depuis des années. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.